Et puis finalement, elle s'est dit,
puisqu'on me refuse, je veux quand même faire partie un peu de cette identité. Et elle a épousé un fils d'Ésaü. Et de ce mariage est né Amalek.
Il a vécu tout ce temps-là ?
Oui, c'est pourquoi je vous dis c'est un thème d'identité.
Elle a épousé le Pilegesh ?
Pilegesh, mon frère.
Même pas la femme. Oui.
Et la Gemara discute, est-ce que les patriarches avaient le droit, ça se rattache à ta question d'hier soir, les envoies télévanies, est-ce que les patriarches avaient le droit de la refuser, puisque nous avons une règle, mitor shelo lishma ba lishma. Sa demande d'entrer en Israël n'était pas lishma, comment dire, désintéressée, elle voulait devenir d'Israël, mais à condition d'être la femme d'Abraham, et si Abraham ne veut pas, la femme d'Isaac, si Isaac ne veut pas, la femme de Jacob, mais d'être la princesse, à la place de Sarah, à la place de Rebecca, à la place de Rachel. Et la Gemara dit, ils ont eu tort. Parce que mitor shelo lishma ba lishma, elle a commencé par être désintéressée, mais elle finira par être désintéressée. Et puis on passe à un autre sujet. Et la Gemara est difficile. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Amoraïm se permettent de critiquer les Avot. Vous comprenez la chose? Entre les Amoraïm et les Avot, il y a des mondes. Il y a les Avot, il y a les Shvatim, il y a les Skenim, il y a les Nuviim, il y a Anshekhneset Agdola, il y a les Tanaïm, et puis il y a les Amoraïm. Les Amoraïm vont se mettre à critiquer une halakha des Avot. Vous voyez quel est le problème? Et pourtant, la Gemara est très claire. Hein? Ils auraient dû l'accepter parce que Mitor Shelo Lishma Balishma. Vous suivez bien ça. Or, qu'est-ce que ça veut dire Timna en hébreu? Timna, ça veut dire celle qui a été refusée, Timna. Vous voyez donc qu'elle n'a pas n'importe quel nom. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi les Avot ont eu raison de la refuser et pourquoi les Amoraïm avaient raison de dire.
Avec quel mot est-ce que vous êtes à refuser la femme de Potiphar?
Ah, c'est pas Imaen.
La même chose,
oui, c'est
Imaen.
Même Aleph. Ici, c'est Manoah.
Manoah, c'est pas aussi un moteur? Enfin, je sais
pas. Ah, l'Imnoah. Et on reviendra sur cette. Et pour éclairer un peu cela, quand Ruth vient, on l'accepte. Pourquoi quand Timnar vient, on ne l'accepte pas? Ben, c'est ça la question. Bon, on sait, les Avot ne savaient pas a priori. Et, puisque le fils, c'est le fils de la mère. Si c'est Ruth qui vient, on l'accepte. Mais si c'est Timnar qui vient, on la repousse.
Oui, mais il y a une différence entre les deux. C'est que Ruth, elle ne pose pas de conditions pour venir, tandis que Timnar pose des conditions.
Très bien. Ça fait partie, si vous voulez, de la différence entre l'identité de Ruth et de Timna. Quand c'est Ruth qui vient, on l'accepte. Quand c'est Timna, on la refuse. Mais retenez bien que les Amoraïm, on dit, mais même si Ruth avait posé une condition, on aurait dû l'accepter. Ça, c'est la thèse des Amoraïm. Et en réalité, la réponse est très simple. Le temps des Avot, l'identité d'Israël n'est pas encore constituée. Par conséquent, tant qu'on est dans le temps des Avot, on ne peut pas accepter Timna.
On peut pas le faire, alors.
Comment?
C'est pas par les Avot.
Non, c'est juste le contraire. Parce que les Avot peuvent être sûrs de leurs enfants, mais pas des enfants de la mère, ça dépend de la mère. L'identité d'Israël, c'est la modification par la mère de ce qu'est Abraham, Isaac et Jacob. Alors, en fait, compte, ça arrive à Israël. C'est l'inverse. C'est-à-dire, tant que l'identité d'Israël n'est pas constituée, on ne peut pas accepter Timna. Donc les Avot avaient raison. Parce que quel était l'enjeu? Que Amalek naisse en Israël. Vous avez compris? Maintenant, l'opinion des Amoraïm. Maintenant, Israël existe déjà. Okay? Alors, Timna, mitor shelo lishma va lishma. Heureusement, Amalek est né en dehors. Hein? Mais ça veut dire, si nous, les Amoraïm, avions à décider du même cas, voilà qu'une princesse vient des Chorites et dit: je vais entrer en Israël, ma condition. Par exemple, conversion pour mariage, parce que c'était ça le problème. Alors les Amoraïm ont dit, notre halakha, c'est que mitor shelo lishma va lishma. Est-ce que c'est clair? Je ne vais pas vous, du tout vous donner une halakha concrète pour savoir comment il faut faire. Vous demandez au Beit Din. Mm. En fait, c'est pour expliquer l'agma. Donc il n'y a pas de contradiction finalement entre les Amoraïm et les... Voilà, c'est un cas où les Banim n'ont pas à faire comme les Avot. Parce que les clauses, si vous voulez, les conditions du problème ne sont pas les mêmes. Alors, j'expliquerai un peu ce mécanisme de l'identité d'Amalek de la manière suivante, et ça renforce un peu l'inquiétude des Amoraïm. Parce que, en bonne part, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'il y avait une chance, peut-être, que si Timna avait été intégré dans l'identité d'Israël, accepté par les Avot, Amalek ne serait pas né. Mais le souci des Avot, c'est que le risque qu'Amalek naisse en Israël. Vous voyez quel était l'enjeu. Je crois que c'est très exactement l'explication de l'antisémitisme par frustration. C'est celui-là qui est le pire.
C'est la différence.
Je finis cette phrase. Vous voyez, on a repoussé Timnar. Qu'est-ce qui sort de Timnar? Amalek. C'est-à-dire pas n'importe quel rival d'Israël, celui qui veut annuler Israël. C'est-à-dire, ici, si vous voulez, une espèce de mécanisme psychologique élémentaire, mais qui joue à une échelle grave, c'est ceci. C'est que le pire des antisémites, c'est au fond celui qui est repoussé de l'identité d'Israël. Est-ce que ça est clair? C'est ça, Amalek. Bon, alors nous avons donc relié les deux problèmes.
La question que je me posais, c'est de savoir la différence, par exemple, entre une Timna et une Agar. Parce que Agar a été répudiée.
Elle n'a pas été répudiée.
Elle n'a jamais été répudiée.
Puisqu'elle a été reprise sous forme de Keturah.
C'est ça. Mais alors pourquoi est-ce que... pourquoi par exemple Timna...
Keturah du Keter?
Keturah,
c'est du...
Ktoret.
Quelle était la condition? Qu'est-ce qu'elle disait, Timna, pour entrer?
Qu'elle voulait être la femme d'Abraham, c'est-à-dire à la place de Sarah. Qu'elle voulait être la femme d'Isaac, à la place de Rebecca. Qu'elle voulait être... C'est-à-dire qu'en réalité, cet engendrement de l'identité d'Israël ne peut procéder que l'identité hébraïque elle-même. C'est Abraham a rencontré Sarah, alors Isaac peut naître. Tant qu'Abraham rencontre n'importe quelle princesse, Agar, c'est Ishmaël qui naît, c'est pas Isaac. C'est-à-dire qu'il y a au temps des Avot un exclusivisme matriarcal, si j'ose dire, parce que Israël ne peut sortir que du peuple hébreu. Mais une fois qu'Israël est engendré par le peuple hébreu, alors n'importe qui peut y venir. C'est la différence entre les Amoraïm et les... Les Amoraïm nous diront, notre halakha, c'est qu'on ne repousse pas Timna. On sait que c'est dangereux, mais on ne le repousse pas. Parce que mitor shelo lishma va lishma. Bon. Alors finalement, il y a un remez que Timna revient un peu avec Naaman. Rappelez les convertis de l'épreuve, vous ne vous rappelez pas de ça? Naaman. Okay. Il y a ici un thème d'identité extrêmement important, mais le principe de Amalek est extrêmement clair. Je voudrais vous l'expliquer, on terminera peut-être là ce matin, de la manière suivante. Tout simplement parce que nous entrons vraiment dans le mois de Hadar, bien qu'on ait un décalage cette année vers Hadar. C'est-à-dire, nous connaissons la rivalité d'Ishmaël contre Israël. Nous connaissons la rivalité d'Esav contre Israël. Ce sont des rivalités d'assujettissement. Ce sont des rivalités, si vous voulez, de domination. Et l'objectif d'Ishmaël comme tel n'est pas d'annuler Israël, mais de lui prendre sa terre. L'objectif d'Esav comme tel, c'est pas d'annuler Israël, mais de lui prendre son ciel.
Son ciel.
Édom nous dispute le ciel, et Ishmaël nous dispute la terre. Comme je dis souvent, il nous reste que l'horizon. Et c'est pourquoi, en fait, quand on a décidé de rentrer chez nous. C'est pas simple d'être juif. Quand on est au ciel, il y a Esav, et quand on est sur terre, il y a Ishmaël. Et derrière l'horizon, les gauchistes ont pris l'horizon, alors c'est bouché. Et en tout cas, pour revenir à notre question, mais Amalek, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. C'est un rival d'Israël qui veut détruire Israël. Et chaque fois qu'apparaît Amalek, le risque, c'est la destruction pure et simple. C'est la raison pour laquelle, enfin, une parenthèse parapolitique, mais très, très rapide, aujourd'hui en Israël, enfin dans les milieux qui se préoccupent du sens traditionnel des événements, on est assez préoccupé de savoir si Sadat représente Ishmaël ou s'il représente Amalek. C'est-à-dire les négociations, comme vous le savez, en réalité sont graves non pas sur les limites de frontières. Vous savez d'ailleurs que nous n'avons jamais eu de frontières, nous n'avons que des non-frontières. On discute sur les non-frontières, pas sur les frontières. Mais la gravité de la négociation n'est pas tellement sur la ligne de la frontière, mais sur la question de savoir si Israël peut exister ou pas. Vous comprenez? Et si c'est à ce niveau, alors c'est pas avec Ishmaël qu'on a affaire, c'est avec Amalek. Okay. Mais je vous citerai ici un enseignement du Péri Tzadik concernant l'identité de Amalek. Et ce n'est pas Ishmaël, ce n'est pas Esav. C'est une identité mixte qui procède de l'alliance entre Ishmaël et Esav contre Israël. Voilà comment le Péri Tzadik l'explique. C'est pourquoi nous étions inquiets de la tentative d'alliance entre Sadat et Carter dans les jours qui viennent. Et puis grâce aux juifs américains, ça va marcher. Mais enfin, on a quand même échappé bête. Et je pense que si je vais être méchant pour le Nahum Goldman, mais si c'était Nahum Goldman qui était à la tête du judaïsme américain au lieu du rabbin Schindler, on aurait passé un mauvais quart d'heure. Vous voyez ce que je ne veux pas dire. Eh bien, le Péri Tzadik explique cela par, si j'ose dire, les totems de Ishmaël et de Esav. C'est-à-dire, vous savez ce que c'est un totem, hein? Le totem de Ishmaël, c'est le Hamour. Chez vous, la Chempo et ma Hamour. Am domé la Hamour. Ki besar Hamourim besar Am. Beaucoup de vers. Hamour. Le totem de Esav, c'est chaud.
Shur le taureau.
Oui, Shur Nagar. Il y a Shur Tam, c'est Yosef. Le Chor Shoro Hadarlo, Shur Tam, le Shur Pézi, c'est Yosef. Et le Shur Nagar, le Shur, le taureau furieux, Nagar.
Nun Gimel
Chet.
Nun Gimel Chet. C'est. Pourquoi vous avez des mirachis qui disent que Yosef, c'est Sitnon Shel Esav. C'est l'obstacle à Esav. Alors le Péri Tzadik explique de la manière suivante. Le Pnim de Hamor, c'est Membra, ça fait 46. Et le Pnim de Shor, c'est Vav, ça fait 6. Ça fait 52. C'est Kerev. Et Kerev, c'est le totem de Amalek. Ok? C'est-à-dire que lorsqu'il y a une alliance entre le bœuf et l'âne, ça vous dit quelque chose, ça, le bœuf et l'âne? Alors il n'est qui? Amalek. Regardez jusqu'où ça va.
Il y a une autre situation de manque d'identité dans laquelle également le Mefarshim semble reprocher à Avot d'avoir refusé. Mais ici, le problème est peut-être un peu compliqué parce que c'est la femme, c'est des parties d'Israël, c'est le choix de Dina.
Dina et Essa.
Bon, Dina et Essa, okay. Lorsque Jacob revient chez Laban et il cache Dina
dans une caisse.
Dans une malle à double fond, et de façon à ce que Essa ne s'éprenne pas de Dina et que les Chachamim me disent oui, mais. Peut-être que Dina aurait permis à Esav de faire Tshuva. Et ça va même plus loin. Dina a été refusée, il est sorti à Malek. Dina n'a pas été donnée à Esav, et par qui dit, eh bien, il est arrivé l'histoire avec Shrem. Et la récupération se fait au niveau de Yassa seulement, comme on l'a vu au dernier séminaire. Mais ici, on pourrait dire que le problème semble plus difficile encore, puisque Dina fait partie déjà. L'identité d'Israël en train de se faire. Dina n'est pas extérieure. L'enfant suit la mère. Timna vient de l'extérieur. L'Olishma. Et ce n'est pas désintéressé. Dina est la fille de Jacob. Elle fait partie des tribus. Enfin,
Non, mais je crois que quand même c'est le, je crois quand même que c'est le même principe d'explication. Après, je reviendrai sur Dina. Le principe d'explication.
Il s'agit de sauver ça.
Oui, oui. C'est juste. Le principe d'explication est le suivant. Si cette situation se pose à nous, les Amoraïm, les
mêmes. Non, mais justement, il veut dire que on comprend les Amoraïm. Mais il veut dire qu'il est plus difficile encore de comprendre au niveau des Avot.
Non, précisément pas, parce que Dina représente le point d'identité d'Israël non encore achevé. Je vais vous reprendre très, très brièvement ce problème de Shrem. On a quand même le temps. Et voici ce qui se passe. C'est que l'élaboration des engendrements de Jacob se fait chez Laban. Et en principe, en fait, Jacob a 13 enfants. Vous savez que 13, c'est donc les dimensions de Echad. L'unité d'Israël a ses 13 dimensions. Jacob a 13 enfants. Et pour que Israël soit Shalem, il faut qu'il y ait 13 tribus. Mais voilà qu'il n'y a que 12
attributs d'Israël.
Oui. Et il n'y a que 12 fondateurs de tribus. Et par conséquent, il faut trouver le 13e homme, si j'ose dire, et on ne peut le trouver que chez les Goïm, puisque le 13e en Israël, c'est Dina, et non pas un des Shvatim.
Il aurait dû être un homme d'ailleurs.
Le Midrash, c'est ce que j'avais cité. Le Midrash dit que c'est à cause de la rivalité entre Léa et Rachel. Mais le Midrash dit que Dina a été conçue comme un garçon, elle est née comme une fille. C'est donc qu'il y a, si vous voulez, un point d'inachèvement en Israël, mais il faut bien comprendre, d'ailleurs, je viens de dire, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est dans le dernier Nouvel Observateur, il y a un article sur, je ne sais plus quel est le titre, de cette semaine, mais qui, vous lirez cela vous-même, enfin qui prétend que l'identité humaine originale est féminine, mais elle se modifie en masculine. En réalité, pour la Torah, c'est l'inverse. L'identité humaine originale est masculine et se modifie en féminine. Okay. Ça veut dire que nous avons encore une vision complètement opposée de. Et alors, l'auteur de cet article dit mais nous savons cependant que c'est pas vrai pour d'autres espèces vivantes. Donc, même pour les hommes, ils se trompent. Enfin, pour les goïms, c'est peut-être comme ça, mais pour nous, c'est l'inverse. Et alors, en tout cas, c'est un problème important pour lui-même. Mais essayez de, je ne veux pas vous faire la propagande pour Nouvel Observateur, mais essayez de retrouver cet article. Et ça veut dire qu'il y a donc un point d'inachèvement d'identité et qui est nécessaire pour pouvoir faire la charnière avec l'universel. C'est-à-dire, c'est si on arrive à trouver ce 13e homme qui sera le fondateur de la 13e tribu en étant le gendre de Jacob, le mari de Dina. Alors, l'unification, la relation entre Israël et l'humanité se fait, et c'est le temps messianique. On a cherché ce 13e homme partout. On a trouvé des approximations, mais en fin de compte, il se révèle que Shrem, c'est un barbare. Que même Shrem, c'est un barbare. Quelle que soit l'émergence d'identité qu'il y a à son niveau, et que je réexpliquerai tout à l'heure. Mais tu vois donc que, à propos de ta question, l'identité de Dina fait encore partie du cycle des Avot. C'est le point d'inachèvement. Et par conséquent, au niveau des Avot, il était dangereux de la donner à Esav. Parce que Halakha, Esav, sonnait Yaakov. Est-ce que la réponse est claire? Maintenant, je vous expliquerai très rapidement. Et en revenant de chez Laban, Jacob sait directement où il va. Il va à Shrem. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il envoie sa fille visiter les filles du pays avec une seule question, avec qui on peut se marier. Vous verrez le texte, c'est très clair. Vatetse, Dina, Batlea, El Benotha. Et qu'est-ce qui se passe à Shrem? De telle sorte que Jacob va directement à Shrem dans l'espoir de trouver ce gendre pour fonder la 13e tribu. Alors il faut remonter très loin dans l'histoire. Peut-être que j'en ai parlé à un des séminaires. Okay. C'est le fait que Shrem est le seul endroit à cette époque où le nom de l'identité de l'homme est déjà le nom de la ville. Enfin, je veux dire où la ville a rendu le nom à l'homme. Alors que dans la descendance de Caïn, la première chose que la Torah nous raconte de la descendance de Caïn pour nous expliquer l'échec de la civilisation de Caïn, c'est qu'on a pris le nom de l'homme pour le donner à la ville. C'est Hanoch. Vaï Bonéir, et Caïn a construit une ville. Vaïkra et Shemaïr, il a nommé le nom de la ville Keshem Beno Hanoch, comme le nom de son fils Hanoch. C'est-à-dire un déplacement de la valeur
ce n'est plus l'homme qui est nommé, c'est la ville, et c'est là qu'il y a la décadence de la société humaine. L'administration de la ville prend le pas sur la destinée morale de la personne humaine. Je pense que c'est clair. Or voilà que, lorsque Jacob revient de l'exil, il sait qu'il y a une ville dans le pays de Canaan où déjà la ville a donné le nom à l'homme. Et en effet, on apprend que le prince de la ville s'appelle Shrem. Donc il sait où il va. Il y avait là un espoir de trouver le fondateur de la 13e tribu, de faire la relation avec l'universel humain. Et puis finalement, cet espoir a été déçu, puisque Shrem, bien que étant en progrès par rapport à la chute de Caïn, Shrem c'est quand même un barbare. Enfin, on pouvait étudier pendant des heures tout ce thème, c'était extrêmement important. Peut-être une fois on fera un séminaire sur la Gemara de Kedushin, c'est tout le problème du mariage qui est impliqué là. On voit que Jacob s'installe à Shrem, enseigne aux habitants de la ville les lois du mariage, et puis que cependant, parce qu'il veut marier sa fille, hein, et puis cependant Shrem se conduit comme un barbare, il la viole et c'est irrécupérable. Vous vous rappelez de toutes ces histoires. Je ne sais pas si à l'époque vous avez cité ce remède, lorsqu'on voit les Tarmim, si vous voulez prendre le texte dans le chapitre 4 de l'Évêchique. Je vais donner le verset. Chapitre 4 de Bereshit, Ken. Verset 17. À la fin du verset 17. C'est Vaïkra et Shemaï Keshem Beno Hanouk. Et il nomma le nom de la ville comme le nom de son fils Hanouk. Regardez bien les termes qu'il y a sous les mots. Vaïkra et Shemaï Keshem Beno Hanouk. Et normalement, nous devrions avoir un terme conjonctif. Je devrais avoir, par exemple, ici, ce terme-là, Keshem Beno Hanouk. Alors donc, la Masora nous oblige à lire autrement. Et il nomma le nom de la ville Keshem, son fils Hanouk, Beno Hanouk. Et il nomma le nom de la ville Keshem, Beno Hanouk. Or, Keshem, c'est la lettre de Shrem. Donc, ce Shrem, c'est bien la ville qu'avait fondée Caïn. C'est joli.
Attention, une question d'ailleurs. Et vos amis au début du courrier, je reviens juste rapidement sur la Mishnah donc que nous avons étudiée hier, la Mishnah de Yom Kippour. Alors vous trouvez dans la Gemara, et là Al Yom Kippour Yigvor Hamecha Mai Tarma, c'est-à-dire lorsque quelqu'un qui est en train de prier emploie cette formule: toi dont la miséricorde est arrivée jusqu'au nid de l'oiseau, Meshatkinoto, dit la Mishnah, on le fait taire. Le Gemara demande Maitama, pour quelle raison? Et le sens de la question est déjà en lui-même, pour quelle raison on le fait taire? Mais pour quelle raison on considère qu'une telle phrase est donc, entre guillemets, hérétique? Qu'est-ce que cela implique? Du point de vue du principe général des différentes formules que la Mishnah exclut, c'est-à-dire de quelle manière le principe du dualisme est introduit par une telle formule. Vous vous rappelez, la question que je vous ai posée, c'est: nous allons voir deux réponses de la Gemara. Ces deux réponses sont très différentes, elles se réfèrent à deux principes différents, mais malgré tout, la méthode que nous suivons, c'est l'unité de l'enseignement qu'il y a dans la Gemara. Et donc, quel est le point commun de ces deux réponses? Donc, Maitarma, ça signifie profondément. Et pour quelle raison la Torah va voir dans une telle formule, la Torah Shebalpé ici, va voir dans une telle formule une hérésie de principe du dualisme? Plikeba Treamorae Vemaharava, c'est-à-dire il y a une controverse, Plukta, entre deux Amoraïm dans l'enseignement du Talmud de Yerushalmi, de Maharva, Rabbi Yosef Barabin et Rabbi Yosef Barzida, Hadamar, lundi, Mipene Shemetim Kina Vemaase Bereshit.
parce que celui, cette formule, celui qui prononce cette formule, le méthyl, c'est au masculin. Donc celui qui prie ainsi impose, introduit, fait venir, apparaître, méthyl. Donc, kina, une rivalité, une jalousie, les maasé bereshit, littéralement dans l'œuvre du commencement. C'est-à-dire que dès la création du monde, Dieu aurait donné une destinée a priori différente à telle ou telle catégorie de créatures. Upenesh, méthyl, kina, bemaasé bereshit. Hein? Compétition, kina. Et que, avant de voir la deuxième thèse, comment est le mashmar? C'est-à-dire comment est le lien entre le pshat de la formule elle-même, haomer, atan tzipor, alka tzipor yagyu rahamecha, et puis l'explication, shemetil kina bemaasé bereshit. Ensuite, nous verrons la deuxième thèse. Qui peut traduire exactement le pshat de Yagion? Quelle est la forme verbale? Al-Kansipur Yagion.
C'est un gifle de la personne du pluriel.
Oui. Qu'est-ce qu'on entendrait comme formule? Yagion, c'est un futur, quand même. On s'attendrait Higyaou. Si on se réfère simplement au fait, je sais que dans la Torah, il y a une mitzvah qui, d'après moi, mais je me trompe, controverse entre Maïmonide et Nachmanide, implique que Dieu a une miséricorde particulière sur le nid de l'oiseau. Cette mitzvah a déjà été donnée, je la connais déjà. Donc il aurait fallu qu'il y ait, peut-être, plus facilement, plus simplement, Al-Kansipur Higiru.
Au passé. Au passé.
Au passé, quand même. Mm-hmm. Bon, ça peut vous aider un peu à comprendre la différence. Le principe est simple.
Même à présent, on y est.
Al-Kansipo Yagiru Rahamecha. Regardez, prenez le premier maasé.
Et c'est valable aussi pour la suite, parce que Yisacher est aussi au futur.
Mais Yisacher a Ken. Et, mais là, ça peut même nous aider plus. Il y a une forme de souhait dans ce futur. Al-Kansipur Yagiehu, Al-Tori Zacher, une forme de souhait. Donc la première thèse, c'est que le principe du dualisme est introduit dans la création elle-même. C'est-à-dire que, a priori, de façon technique, naturelle, a priori, il y a une différence de destinée entre telle ou telle catégorie de créatures. Il me semble, mais ça c'est simplement un avis personnel que je vous en ai, faudrait vérifier, il me semble que le premier enseignement ne tient pas du tout compte du problème des Taramei Mitzvot tel qu'il va se poser dans le deuxième enseignement. C'est-à-dire, imaginons que quelqu'un dise cette phrase. Eh bien, la question que nous nous sommes posée, pourquoi il lui vient à l'idée de dire cette phrase? Cette question ne se pose pas pour le premier Amora. Il l'a entendu. Elle se trouve là dans le langage habituel de la communauté. C'est pas forcément parce qu'il sait qu'il y a une mitzvah qui concerne le Kansipo. C'est en fin de compte une formule de piété habituelle qui s'est introduite dans la familiarité du langage, et celui qui emploie une formule de cette sorte sans se préoccuper du problème qu'elle entraîne vraiment, c'est-à-dire est-ce que la motivation des mitzvot c'est rachamim ou c'est gezerot, celui qui emploie cette phrase et comme telle, objectivement, la formule elle-même, indépendamment de son intention profonde de sens, la formule elle-même implique le dualisme au niveau de la création. C'est-à-dire que le créateur aurait a priori une préférence particulière pour le nid de l'oiseau. Bon, ça c'est la première. Deuxième thèse, le Hadamar, il peut nécharos et midotav shelakadosh baruch hu rachamim, veinan et lakzerot. Et ici, l'accent est sur Yagyehu Rachamecha. Dans la première explication, l'accent est sur Al-Kansipur. C'est exclusif. Ce n'est pas faux qu'il y ait une relation de Rahamim entre le Créateur et le Kansipur, mais ce n'est pas parce que le Kansipur, en particulier ce qu'il est, c'est parce qu'il y a une relation de Rahamim par rapport à toutes les créatures. Merachem à la Beriot, Kulam. Et donc, le contenu de la formule n'est pas faux. Il devient elle devient hérétique par omission, je veux dire, par le fait qu'elle prend un aspect restrictif qui exclut les autres. Mais dans le premier enseignement, le premier Amora, la Gemara explicite l'accent du caractère erroné de cette formule sur Al-Kantzipur, tandis que le deuxième enseignement, c'est sur Yagéou Rahamecha. Et là, nous avons eu toute cette étude extrêmement importante que je n'ai fait d'ailleurs qu'effleurer, si vous avez remarqué, puisqu'on n'a pas étudié la fin du Rambam, qui nous donne les... Et je vous dis tout de suite pourquoi il y avait trop de... Vous êtes tous jeunes, mais enfin, il y avait trop de beaucoup plus jeunes, et qu'on ne pouvait passer que par des structures de Kabbalah. Alors, vieillissez un peu, et puis on apprendra ça.
Et les problèmes du après, on peut pas...
Attendez, on va finir sur ce point, après tu me... Ouais. Et là, comment dire, là, ça implique toute cette controverse importante, et qui est, quel est le motif pour lequel Dieu donne dans la Torah tel ou tel mitzvah. Et est-ce que ce motif vient de ce qu'on appelle ici rahamim, ça veut dire au niveau de l'analyse de ce qui mène à une décision de la volonté, il faut donc faire une analyse de la volontaire, est-ce que ça se réfère à une motivation d'une émotion particulière qui s'appelle ici rahamim? Et là c'est greffé, en particulier dans la controverse entre Maïmonide et Narmanide, le fait de savoir si les mitzvot ont un taram ou pas. Hein, mais celui qui dit que c'est par rahamim pour le nid de l'oiseau que Dieu a donné cette mitzvah, ça voudrait dire qu'il implique que le taram est de l'ordre émotionnel et de l'ordre d'une passion. Que finalement, lorsque je dis que la Torah exprime la volonté de Dieu, je ne parle pas tellement de la volonté dans le sens de xéra, décision, c'est ainsi que je veux, mais la raison pour laquelle je veux cela, le chefet, la motivation affective, le désir plus qui est derrière la volonté. Et c'est cela qui est refusé par la phrase. C'est « Otsé midotab, c'est la chose pour la hamim unak zelot » Ça veut dire, vous rappelez du point particulier de la controverse entre Nachmanide et Maïmonide. Narmanide dit, nous ne pouvons pas voir, comme le texte de Maïmonide le serait supposé, que celui qui dit cela, chez Ose Minotav, Shakazuahu, Rahamim, Nakzorot, veut dire que les mitzvot n'ont pas de taram. Okay. C'est pas cela que le texte veut dire. Vous vous rappelez de cela. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne faut pas chercher le taram dans une passion de la volonté du Créateur. Ça y est, c'est clair? Bon. C'est clair. C'est ce que veut dire la formule. Rahamim, mais enane la xerot, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de taram, nous dit Nachmanim. Et d'ailleurs, ce taram est relié à la rahamim. Mais quel rahamim? Pas rahamim que Dieu a pour le nid d'oiseau. Rahamim que la Torah veut nous imposer à nous en apprentissage de rahamim par rapport aux créatures. Est-ce que vous rappelez la différence?
Bon, c'est alors maintenant. C'est dans les Kandodé,
c'est ça. Endorchin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de taham, qu'il n'y a pas de dracha, mais endorchin barabim. Oui. Bishnaim, c'est Bishnaim. Enfin, c'est barabim. Miaut rabim, c'est Shnaim. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sens. Ça veut dire que, ici, en tout cas, dans cette formule, on veut nous interdire de chercher le taham de la mitzvah dans une émotion du Créateur. Okay. C'est bien clair. Vous vous rappelez le Rashi d'ailleurs que nous avons lu hier, c'est hier ou avant-hier, je me souviens plus. Il dit la preuve, c'est que à qui on dit, on fait comme si ça n'a pas de sens, nous c'est discipline, discipline. À qui on dit ça? Au Satan et au Motaolam. C'est-à-dire ceux qui croient, mais c'est plein d'humour, c'est-à-dire ceux qui croient que les hokim de la Torah n'ont pas de sens, pensent comme le Satan et le Motaolam. C'est à eux qu'on dit ça. Vous avez compris le problème? Je vais vous donner tout de suite la référence. C'est. Dans le verset Zot Chokat Torah, comment commence la paracha de Chokat? Je vais voir le Rashi sur la paracha de Chokat. Alors, on arrive maintenant à notre question, quel est le point commun des deux explications?
Quoi, on n'a pas fermé la porte? On faisait de la chambre.
Le fils est Fichier Satan, le Omota Olam, Monil et Israël, Lomar, Ma Hamitzvah Hazot, Umataam,
Umataam,
Yeshba, le Tirach Tab, Bakukak, Berahi, Milifne, Eilacha, Roshut,
Le Hare,
Le Haher,
Aharea. Vous avez suivi?
Oui,
je traduis. Okay. Voilà le makor. Alors il y a un deuxième makor, c'est Im Bechukotai Tishmeu, le premier verset de Bechukot. Et là, ça va vous donner la réponse. Ça veut dire pourquoi la Torah, pour certaines mitzvot, dit que c'est une chouka. Et en fait, je vous citerai un chidouche du Orachai sur chouka. Après, je vais vous citer le chidouche du Orachai. Voilà la question. Pourquoi la Torah dit des mitzvot que c'est chouka? Parce qu'il peut arriver que le Satan, celui qui met comme accusateur public dans le tribunal d'en haut, en question la sincérité d'Israël. Et dès qu'Israël commence à apparaître, Abraham, le Satan commence à parler. Vous vous rappelez du midrash de ce que dit le Satan à propos d'Abraham. Cet homme, à la fin de sa vie, tu lui as donné un enfant, et voilà qu'il a reçu cet enfant, il a fait un grand festin, il a offert des troupeaux entiers à ses invités, à toi il n'a pas fait un seul sacrifice. Voyez, la mise en doute de la sincérité profonde. Alors Abraham répond imprudemment, mais Dieu répond au Satan, mais tout ça, il n'en a fait que. Il a fait pour son fils, mais si son fils je lui demande un sacrifice, il acceptera. Et alors le Satan dit chiche, et bah, il y a hara de varina. Mais l'imprudemment était bien à sa place, d'ailleurs. Les Umot HaOlam, ils vont voir le contenu des lois qui règlent le comportement d'Israël. Et pourquoi c'est injuste que Dieu vous préfère? Alors on répond non, il n'y a pas de pourquoi. Dieu nous a demandé ça. Nous sommes des Avadim, nous faisons ce qu'il a demandé. Zeram il est fanav. En lecharechut l'arir acharia. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un Taram. C'est clair? Seulement le Taram est d'une nature telle qu'il peut y avoir contestation des Goïm et du Satan. Vous voyez ce que dit ce Rashi. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, chaque fois que le Taram de la Mitzvah semble introduire une préférence par élection pour Israël par rapport au Goïm, alors c'est là qu'on dit Chouka. Vous voyez que c'est Mipenesh et Metil Kina, Vemaase Bereshit. Vous voyez que c'est relié. Hein? En particulier sur la Paradouma, la vache rousse. Qui est le principe des principes des mitzvot de la cache rousse. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah, on ne va pas étudier le Tara, mais simplement je vous indique le principe. C'est une mitzvah où on voit que l'impur peut devenir pur, injuste. Oui. Alors, comment vous arrivez à l'impureté? Et voilà que la Torah vous donne un truc, un trick, comme vous dites, et votre impureté va se transformer en pureté. On dit chouka. Mais nous, on ne cherche pas à comprendre. Le roi a décidé comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Torah. Alors, la deuxième référence qui va montrer dans Rashi lui-même que bien sûr il y a un Torah, c'est dans Im Bechukotai Tishmeu. Que dit Rashi? Im Bechukotai Tishmeu. Sur le verset.
Là,
oui. Voilà, la Torah dit Im bechukotai telechu. Si vous suivez mechukot, quel commandement? Les commandements qu'on appelle gzera, que soi-disant il n'y a pas de taram. Okay? Mais il faut nuancer, comme on a vu tout de suite avec la première. Vet mitzvotai tishmuru, et que vous préserviez, accomplissiez mes commandements, va assister mota, mais que vous les réalisiez. Venatati gishmechem beita mechenal. Les promesses. Alors, Rashi dit tout de suite, en citant le sifret, Im bechuvta itelechu, yachol ze kiyum amizvot. Peut-être que je pourrais comprendre que l'expression de la Torah ici, Im bechuvta itelechu, concerne la réalisation des commandements, la pratique des commandements. Kiyum amizvot. Keshehu omer,
Vetnizvotai tishmovu, vegomer. C'est-à-dire, la suite du verset qui dit et que vous pratiquiez mes mitzvot implique que le Bechukotai Telechu signifie autre chose. C'est clair? Je serais tenté de dire im Bechukotai Telechu, ça veut dire littéralement si vous suivez mes principes de loi, si vous les appliquez. Non, il dit tout de suite après et que vous les appliquiez. Donc, si vous suivez mes chukot, ça ne veut pas dire la pratique. Ça veut dire quoi donc? Hare kinu mitzvot amur, hamani mekayem im Bechukotai Telechu. Chetiyu amelim batora, que vous étudiez la Torah. Alors, c'est clair? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Imechugotai telechu, que vous, littéralement, chetiyu amelim, que vous œuvriez dans l'étude de la Torah, en vue de quoi? En vue de comprendre le sens des mitzvot. Donc, c'est tout le contraire, c'est clair? Que les chukot, c'est dafka, les mitzvot, qui ont le sens essentiel de la Torah, zot chukat à Torah. Et seulement, il nous est interdit d'accepter une controverse avec le Satan et les Motorola là-dessus. Pourquoi? Mi penesh et metil qui n'a pas assez de péché. C'est chidouche, hein? Vous avez compris le. C'est clair? Voilà, donc le paradoxe du premier enseignement est résolu. Mais chatekinotu. On le fait taire. Pourquoi? Parce que. Il introduit le principe du dualisme et dans la relation de Dieu à toute sa création. Or, nous savons que c'est vrai qu'il y a une mise à part d'Israël. Depuis Maase Bereshit, la Kedusha d'Israël, elle est Amnivra. Okay? Mais de ça, on ne parle pas, parce que ça porte atteinte au monothéisme. Bon, j'ai profité ce matin de relier les deux séminaires. Ok? Bon, maintenant le Chidush du Or HaChaim, qui est extrêmement important. Et qui est dans l'autre verset de Zotrukat HaTorah. Alors, je vais vous lire le verset. Hashem el Moshe vel Aaron lemor. Zotrukat HaTorah, asher tziva Hashem lemor. Daber el ben Israël vikru elecha par Aduma. C'est clair pour tout le monde ou je traduis? Il faut traduire? Non. Oui. Vaidaber Hashem Moshe et Aaron les mots. Et Hashem parle à Moïse et à Aaron en disant Zot Chukat HaTorah. Voici la Chukka de la Torah. Asher Siva Hashem les mots, que Hashem a ordonné de dire, de pauvres guillemets, parle aux enfants d'Israël qui te prennent une vache rousse de Fena. L'Or Chaim lit ça comme ça. Vaidaber Hashem Moshe et Aaron les mots. Zot Chukat HaTorah, de pauvres guillemets, Asher Siva Hashem les mots. Point. Et maintenant, d'Aber le Ben Israël. Je traduis, voici quelle est la chukka de la Torah, le fait que Dieu ait parlé à Israël pour lui ordonner quelque chose. C'est ça la chukka. Vous avez vu le pshat? Ça veut dire que dans toute mitzvah, il y a un tzad chok, le fait que c'est à Israël que Dieu ait ordonné les mitzvot. Ça c'est chok. Qui va expliquer ça? Dès qu'on veut expliquer, met-il qu'il n'avait pas assez vrai. Vous avez compris comment ça se relie? C'est joli comme chidouche. Autre Torah. Le mystère, c'est quoi? C'est pas que Dieu ait demandé une Torah aux hommes, c'est qu'il l'a demandé à Israël. C'est ça le mystère. Autre Torah. Bema she'tziva Hashem les morts. D'abord, il vient Israël. Parle aux enfants d'Israël. C'est ça le grand mystère. Vous connaissez chez les Ashkenazim, c'est connu le Kaddish du Rabbi de Berditchev. Voilà. C'est ça le grand mystère. Qu'est-ce qu'il y a avec Israël? Pourquoi d'abord il vient Israël, les morts, il vient Israël, Tzav, il vient et les autres? C'est ça le mystère. Bon, le rabbi de Berditchev a une réponse. Les autres, c'est les tsarot. Le tsar, le César, tout ça, c'est tsar. Les autres, il a des tsarot avec eux.
Un juif qui vient par des tsars.